le temps buissonnier. Le temps buissonnier partagé aujourd'hui avec Fabrice Melchiot, directeur du théâtre Amstram Gram à Genève, mais j'aurais dû dire surtout et avant tout auteur très connu, primé et aussi auteur d'une adaptation de monument de la littérature Moby Dick, le texte d'Herman Melville. Et Mathieu Cruciani, alors je ne sais pas s'il faut le prononcer à l'italienne, metteur en scène de Moby Dick, dont de Fabrice Melchiot. Et je crois que c'est Mathieu qui a demandé à Fabrice d'écrire ce texte. Mais ils nous le diront tout à l'heure. Mardi soir, alors que je me préparais à partir au cinéma, mon téléphone a sonné. C'était Carmela et Negrito. Rien de grave, j'espère, c'est si rare que vous utilisiez le téléphone et que vous m'appeliez à Paris. J'ai vu à la télévision qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup neigé. Le village doit être sous la neige, ça doit être magnifique, non ? Oui, mais cette fois c'est triste, répondit Carmela. Mais Carmela, c'est si beau et vous êtes à l'abri avec ton grillon Negrito, alors de quoi vous plaignez-vous ? C'est pas nous, souffla Negrito que j'imaginais posé sur la main de Carmela qui tenait le combiné. C'est à cause de la forêt. Dis à ton grillon qu'il ne s'inquiète pas, la forêt en a vu d'autres, tu sais. Oui, il le sait, mais c'est juste que cette année, la forêt souffre, elle souffre. Il a neigé trop tôt dans la saison. Il y avait beaucoup de feuilles encore et la sève était très abondante dans les arbres. Bon, Carmela, comment pouvez-vous être sûr que la forêt souffre, comme dit Negrito ? Mais parce qu'on l'entend souffrir et ça nous glace les sangs. Depuis une heure, on entend partout des craquements qui déchirent le silence épais de la neige. La forêt craque. Écoute bien, on va te faire écouter. Tu vas entendre d'abord les craquements, comme un crépitement qui tourne, et puis des bruits plus forts, de temps en temps, comme des déchirures, et puis une sorte de plouf assourdi, très assourdi. Ce sont les branches, parfois tout le haut des arbres, qui tombent dans la neige. C'est à pleurer. Mais Carmela, c'est la nature, il ne faut pas le prendre au tragique, ce ne sont que des arbres après tout. Oui, peut-être. Pour toi, là-bas à Paris, oui. Mais nous, on vit avec la forêt. Chaque arbre autour de nous a une histoire. Et demain, lorsqu'on les verra affaissés, déchirés, déchiquetés, en travers des chemins, comme un jeu de Mikado, l'hiver sera en deuil. Fabrice Melchiot, Mathieu Cruciani, je vous ai entraîné dans les montagnes et dans la neige, encore que vous n'êtes pas si loin à Genève, j'imagine, Fabrice Melchiot, mais on est très loin du texte Moby Dick. Alors, je me suis dit, il faut un sacré culot quand même pour adapter Moby Dick et surtout l'adapter pour le théâtre. Ça s'est passé comment ?
On s'est rencontrés, j'avais par le biais de la Comédie de Saint-Étienne, qui a produit en partie le spectacle. Et moi, ce qui m'a plu aussi, c'est que j'avais immédiatement le sentiment d'être face à quelqu'un qui est un véritable lecteur. Et puis qu'il y avait évidemment un défi que de réussir à faire entrer 700 pages dans une heure de théâtre. Et ensuite, assez simplement, j'ai demandé à Mathieu de coucher sur quelques pages une forme de vision comme ça un peu idéale de ce qu'il souhaitait faire au théâtre avec le roman de Melville et je crois que j'ai été assez comment dire ça assez obéissant. J'écris du théâtre, c'est parce que j'aime ne pas être le seul maître à bord et que c'est l'endroit où de conciliation un peu parfait comme ça entre un désir de solitude et un désir de partage, je dirais, à égalité, quoi.
Alors, vous vous souvenez, Mathieu Cruciani, ces quelques pages qui ont qui ont décidé finalement, Fabrice Melchiot, en dehors de votre passion commune pour ce roman, Moby Dick, de...
Oui, je me souviens très bien, le problème de représentation que vous posez, celui qui nous a aussi animés, c'est-à-dire c'est impossible, donc allons-y. C'est bon, Vitesse qui disait, après avoir monté Faust, maintenant j'ai tout compris au théâtre, on peut tout faire au théâtre, et traiter l'intraitable. Qui est une formule qui n'est pas que jolie. Et donc, comme j'ai tout compris, disait Vitesse, maintenant je vais montrer Moby Dick. Je vais monter Moby Dick. Puis bon, lui, il est mort. Mais... Et donc, c'est ça qui nous a animés. C'est le problème de représentation. C'est absolument irreprésentable. Donc, on ne peut pas justement se mettre dans une compétition avec, par exemple, le cinéma pour ce qui est d'une représentation plus majoritaire des choses, plus littérale. C'est ailleurs qu'il faut qu'on travaille. Et c'est... Voilà. Donc, quant à ces notes, elles partaient d'une idée simple, c'est de se dire, et si Moby Dick ne se passait pas sur un bateau, tout simplement. Des personnes se retrouvant dans un endroit qui serait, par exemple, un vieux cinéma ou un cabaret, peu importe, mais en tout cas pas un bateau, et qui vont, par la langue, par l'échange, par le partage, par le souvenir, par l'imaginaire, ressusciter cette figure-là et en faire plus que... évidemment une chasse à la baleine ou voilà.
Et dès le début, la pièce s'ouvre sur ce rêve quasi universel. Donc j'aimerais que vous, si vous en êtes d'accord, Fabrice Melchiot, vous lisiez le début du texte.
Ismaël, c'est un homme qui dort dans un homme qui parle. Starbuck. C'est un homme qui dort, dans un homme qui parle, dans un autre qui se prépare à un très long voyage. Ismaël. C'est un homme qui dort, dans un homme qui parle, dans un autre qui se prépare à un très long voyage, dans un dernier qui les porte tous les trois. Starbuck. Un homme qui dort, un homme qui parle, un homme qui se prépare à un très long voyage, trois hommes dans un quatrième qui les porte. Ismaël. Le quatrième ne fait que les porter. Starbuck. Mettons... qu'il balaie le sol d'un bar couvert de sciure. Il n'a plus d'argent, ou presque, et rien de particulier à faire sur terre. Il siffle un air connu. L'homme qui balaie, mettons qu'il s'appelle Ismaël. Ismaël, comment savoir le nom des autres? Tous ses corps en un seul. Et la sciure qui vole. Starbuck. C'est sur une plage de l'île Manhattan. Ce n'est pas de la sciure, c'est peut-être du sable. Ismaël. Alors c'est peut-être un homme qui porte en lui trois autres hommes et balaie de la sciure dans un bar que porte en lui un cinquième homme qui balaie le sable d'une plage de Manhattan. Starbuck. Un seul homme pourrait porter deux bars et plusieurs autres hommes. Ismaël. N'importe quel homme porte en lui des bars, une plage de sable et ses semblables. Les rêves ne pèsent rien.
Merci, c'est une très belle lecture, Fabrice Melchiot, de ce début du texte. Donc on voit sur scène, pour les auditeurs, une sorte de cinéma, je crois que vous avez voulu un cinéma années 50, c'est cinéma qu'on ne voit plus malheureusement, mais ça peut ressembler à un bar aussi, il y a des chaises, et on le voit balayer, et on entend ce dialogue. Alors moi j'ai vu la pièce à Sartrouville, puisque nous sommes bien en train de parler d'Odyssée Anne Yveline, qui est producteur, si j'ai bien compris, du spectacle. Et je l'ai vu dans ce qu'on appelle les matinées scolaires, avec des enfants qui étaient en primaire. Hein, c'était des petits. Ils étaient très attentifs et je me suis dit, mais ce texte est pourtant pas si simple. Ça aussi, c'est un pari.
Le passage que j'ai lu, en fait, c'est pour moi, c'était vraiment signifié que le dispositif était vraiment un dispositif dramatique, en fait. Et c'était comment faire entrer la matière du roman à l'intérieur d'un dispositif que j'espère vraiment théâtral. Et par ailleurs, pour ce qui est de la langue, il y a une évidence pour moi de l'association de l'enfance et de la poésie. Je le vérifie auprès de tous les enfants que je rencontre en atelier d'écriture, auprès des enfants que j'ai la chance de voir grandir près de moi, ma fille en premier lieu. Il y a une évidence du plaisir d'un jeu avec les mots qui parfois est involontaire et puis qui finit par exercer une séduction qui devient tout à fait volontaire. C'était aussi
reconnaître le style de Melville, tout simplement. C'est un style d'une modernité, d'une énergie incroyable. Et pour moi, c'est un terme important. C'est-à-dire qu'au-delà du sens, au-delà de ce qui, je pense, scotche un peu les enfants aussi, c'est-à-dire l'aspect roman d'aventure, quoi. Il y a une énergie que j'espère avoir réussi à entretenir au cœur de ce dispositif dramatique.
Alors, c'est vrai que la langue, on vient d'écouter, vous êtes metteur en scène, Mathieu Christiani, on vient d'écouter Fabrice Melchiot, on entend cette langue qui a... On dirait qu'on ne peut avoir que cette scansion, cette manière de le dire, et du coup, elle contraint beaucoup, non, la manière de diriger les acteurs. Comment... C'est une langue tellement poétique, tellement forte.
Je ne l'ai pas vécu comme ça. Elle est multiple aussi. Bon, déjà, c'était une des envies qu'on avait. Sont enchâssées de brefs moments de Melville en plus. Hein. C'est-à-dire, il y a vraiment une langue qui est accueillante, qui est celle de Fabrice. Et à l'intérieur, on trouvait que c'était joli aussi de faire teinter comme ça, de temps en temps aussi, tant qu'à faire, du Melville. Ensuite, il y a ce qui est de l'ordre stylistique, ce qui est de l'ordre un peu plus structurel. C'est-à-dire que, de toute façon, je pense, pour ce qui est des enfants que vous avez vus, puis on l'espère aussi des plus âgés, cette tension comme ça, un peu érotique avec le mystère de la langue, est une chose qui va et qui vient. Je m'explique, si on est dans une abstraction pure pendant une heure, de toute façon, on perdra une fois installé aucun confort d'écoute. Et c'est aussi une série de propositions, de scènes différentes. C'est un appel à une inventivité théâtrale après, en permanence. Ce sont que des problèmes d'ellipse que propose Fabrice, de passer d'un endroit à un autre, de personnages qui se hommes en cours de route, qui ne sont pas de toute éternité à Cab ou Quicquag, mais qui sont avant tout des comédiens sur un plateau, ou en tout cas des hommes qui tout à coup endossent par la langue, comme ça, ces figures. Et c'est cette vivacité, comme ça, cette extrême mobilité de Fabrice par rapport au sujet et d'une espèce de questionnement comme ça permanent, structurel aussi, c'est-à-dire vraiment des monologues, des scènes plus rythmées, qui fait que pour moi, non, je ne l'ai pas ressenti vraiment comme une contrainte. Ensuite, chaque comédien de toute façon arrive avec son rapport à la langue directement sera plus, on va dire, m'inspirera un ténor, on va dire, donc je l'emmènerai, pourquoi pas, vers quelque chose de plus opératique. Tel autre sera plus concret ou plus contemporain. Donc non, je ne me suis pas senti contraint, je ne le dis pas par politesse.
Oui, non, mais la contrainte en plus est intéressante, y compris au théâtre. Ouais. Beaucoup de choses aussi sont écrites, pardon, sur la scénographie. Par exemple, le petit bateau qu'on amène. Enfin, je dis le petit bateau parce que c'est le grand bateau, mais il est amené. C'est
un origami.
Un origami, hein, ouais. Blanc. Beaucoup de blanc d'ailleurs.
Ah, oui, voilà. Pour désarmer tous les gens qui vont nous dire, mais il n'y avait pas de baleine, vous n'avez pas réussi à trouver une baleine pour interpréter. Voilà, on s'est dit, on va le mettre dans un cinéma. Et les premières images sont des images de baleines. Ouais. Comme ça, tout le monde
magnifique,
a vu des baleines.
D'ailleurs.
Très belles,
ouais,
des, très belles des archives
images.
De Lina.
Ces archives de Lina sont. Oui, j'ai oublié d'en parler, en noir et blanc, sont magnifiques.
Oui, oui. C'est tout un. Enfin, d'ailleurs, il y a deux sources différentes. Voilà, donc le faire teinter du blanc, c'est-à-dire dire Moby Dick, c'est autre chose qu'une baleine. Voilà, hein, donc c'est bien sûr, ça n'est qu'une baleine et c'est autre chose qu'une baleine. Et je trouvais joli de se dire, on peut la voir dans un nuage, dans un verre de lait, et c'est ce motif obsessionnel qui m'intéresse. Et évidemment, le motif de la quête, après. Elle est bien sûr dans le futur, elle va trouver son accomplissement dans le futur, mais elle est aussi bien sûr dans le passé. Donc c'est toute la thématique d'Akab qui cherche dans le futur une réconciliation dans le passé.
Dès le début, on va voir deux hommes, mais. Vous me le disiez en préparant l'émission, Fabrice Melchiot, et c'est vrai, ça aurait été un homme, une femme, ça aurait été pareil. C'est quand on échange un baiser, et pourtant, il est extrêmement chaste et rapide, mais rien n'échappe, évidemment, au regard des enfants. Et ça ricane, et d'autant plus quand ces deux hommes vont aller partager le lit, parce qu'il n'y en a qu'un. Hein. Enfin, on peut comprendre ça, d'ailleurs.
On ne va pas se faire une publicité cynique là-dessus, mais certes, les enfants réagissent. Bon, tant mieux. Ensuite, ce qui est plus étrange, c'est que, par exemple, sur ce spectacle, des parents réagissent très, très fort.
Ah bon ?
C'est-à-dire qu'il y a eu une manifestation devant Sartrouville. Si. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus questionnant.
Mais à cause du baiser ?
Bien entendu.
Non, mais c'est une plaisanterie. Non. Mais on ne peut plus faire de théâtre. Alors, on ne peut plus faire de littérature, on ne peut plus faire de danse.
On peut encore, mais...
Oui, non, j'espère bien, mais... Mais c'est invraisemblable. Donc il y a eu des manifs devant le théâtre à Saint-Tropez.
Ouais, et puis parce qu'il y a aussi, ça se passe sur un bateau, donc il y a des hommes qui sont torse nus. Donc là, en l'occurrence, ça n'est pas un Fassbinder. On peut pas dire qu'il y ait vraiment une prise de. Mais fatalement, parfois, il peut faire chaud. Et puis, bien sûr que dans Melville, il y a tous ces sujets-là, et qu'on ne veut pas tenter de les éluder, ni toi non plus, Fabrice. Bien sûr que Queequeg, en plus, c'est vraiment l'ironie du sort, est un personnage donc qui est un personnage qui vient des îles du Pacifique, donc qui porte comme ça la figure de l'étranger et tout. Il s'est embarqué sur une pirogue pour découvrir la chrétienté dans une démarche comme ça pour chercher le bon dans l'homme, une espèce de chiasme comme ça avec Acab. Et ben c'est justement ce personnage qui est censé porter donc là en l'occurrence une autre culture où quand on est ami avec quelqu'un, on se marie avec lui.
Ouais. Donc c'est d'ailleurs, ça qui c'est fait très réagir. Beau ce passage. Oui. C'est magnifique parce qu'on y voit tous les engagements très forts de l'amitié et de l'aventure humaine qui nous confronte à la mort, ce qui est le cas des baleiniers, qui est oui, charnel, enfin, qui est absolu, comme un amour absolu. Ça, c'est magnifique dans la pièce.
Eh bien, c'est par ce personnage-là que nous est arrivée cette espèce de demi-polémique. Voilà. Ensuite, rien.
Ouais. Bon, mais c'est peut-être qu'à Sartrouville. J'espère que pendant la. Si vous le jouez ailleurs, ça se passera mieux.
Ah ben là, il a suffi d'une fois, après on parlera d'autre chose. Parce que, on l'avait joué 40 fois. Et puis, à une représentation à laquelle j'étais, il y a un papa, à un moment, qui, voyant que les enfants faisaient Ah lorsque deux. A pris la mouche, on va dire, pudiquement, et fait une manifestation. Autour de ça. Ce qui est un peu triste, c'est que précisément, il s'engouffre dans ce A des enfants, qui est un A quand même infiniment plus ouvert qu'un A de sanctions. Et alors là, après, voilà, nous, on est d'affreux Jojo qui montrons des types torse nus sur un plateau.
Et la baleine qui est une femme. Alors, et quelle femme ! Non, mais vous en rajoutez. Alors, ça, c'est vous qui l'avez écrit, Fabrice Melchiot, et c'est une évidence. Que la baleine est une femme quand on lit votre texte.
Mais en fait, c'est ton idée, Mathieu.
Vous êtes mignon tous les deux.
Te rendre là. Non, c'est que c'était dans nos premières discussions. Comment représenter la baleine?
Est-ce que pour les adolescents que vous étiez, puisque vous avez tous les deux lu ce livre, et c'est ça qui vous a réunis adultes dans ce désir de faire cette pièce, de l'écrire et de la monter, parce que moi je suis une fille, j'ai lu ces romans, ou pas lu d'ailleurs, et je commence à comprendre pourquoi à mon âge aujourd'hui, et je commence à comprendre quand je lis votre Moby Dick, Fabrice Melchiot, que peut-être pour vous les garçons, mais là aussi on va se faire engueuler, on va avoir des mails et tout, aussi les féministes aussi, enfin tant pis, je vais jusqu'au bout parce que j'ai commencé. On se dit il y a quelque chose de très fort de l'ordre du désir sexuel chez les garçons de ces grands romans d'aventure, et du coup ça m'étonne plus de voir que la baleine est une femme.
L'exercice de la chasse pour moi a fondamentalement à voir avec le désir de la proie,
de la proie. Ça,
c'est frappant dans ce très beau film la chasse de lion à l'arc où la scène est magnifique, c'est-à-dire le chasseur tue le lion, s'en approche, vient s'excuser. Ce moment en fait où la scène de chasse devient la scène de la confession, de la tentative de réparation, le chasseur demande pardon. C'est le moment où la chasse devient la scène amoureuse. Et pour moi, c'est le rapport entre Acab et Moby Dick est à l'évidence un rapport qui est un rapport amoureux, mais passionnel.
Passionnel, oui.
Il ne peut pas faire sans elle, mais il ne peut pas non plus faire avec elle. Je crois que c'est pour ça que quand Mathieu m'a fait cette proposition-là, j'ai trouvé ça vraiment juste, pertinent, qu'au théâtre, on cherche évidemment un autre moyen de représenter la baleine. Pour moi, ça venait évoquer cette tension érotique, amoureuse que je reconnaissais dans la scène de chasse.
On va peut-être écouter, vous êtes d'accord, un autre extrait, parce que c'est toujours compliqué. Alors, je ne sais pas, peut-être page 29, justement. Vous êtes d'accord,
mais,
Fabrice?
Avec plaisir. C'est Starbuck. C'est peut-être un homme. Peut-être un homme d'avant les hommes. Il porte peut-être un nom de l'écriture sainte, c'est une coutume à Nantucket. C'est peut-être un roi des mers scandinaves, peut-être un poète païen de Rome. Cerveau parfaitement conformé, cœur bien pondéré, il a été dans les collèges et parmi les cannibales. C'est un homme que le silence et la solitude ont façonné dans les eaux les plus lointaines. C'est un homme d'une force exceptionnelle.
un homme unique dans le recensement de toute une nation, une créature spectaculaire qui semble désignée pour de nobles tragédies. Il lance son harpon dans ce qui est le plus puissant, dans des ennemis plus étranges que les baleines. Son harpon, c'est une comète cachée dans un instrument de mort. Le plus rapide de tous, le plus sûr, il est Akab, l'homme. Car c'est un homme avec femme douce et tout jeune enfant, à l'humeur du vent, mais les lancinements de son moignon saignant en sont la cause. Depuis qu'il a perdu la jambe dans la gueule de cette maudite baleine du dernier voyage, il est hargneux, sauvage même parfois, il est Akab. Il porte le nom d'un roi couronné, mais c'est un homme. Un homme qui porte son destin comme une statue de sel, dont la chevelure prend racine à 1000 brasses de profondeur. C'est un homme qui balaie tout sur son passage.
J'avais envie, merci que vous lisiez ce passage, parce que j'y ai vu aussi, au-delà du roman épique, j'y ai vu la rage qu'on peut avoir sur une blessure. Pas forcément, évidemment, c'est plutôt rare de se faire arracher une jambe aujourd'hui par une baleine, mais chez beaucoup de jeunes d'un certain milieu, on voit beaucoup de blessures, y compris physiques, qui sont dues au niveau, à la vie sociale que l'on a dans certains quartiers, etc. Et je me suis dit, ou une impuissance aussi, peut-être, un mur face à nous, et j'ai trouvé que c'était une écriture magnifique pour dire cette rage. Mais j'extrapole peut-être.
Tant mieux si c'est le cas. Mais non, moi, la mutilation en fait est un motif, si j'ose dire, assez récurrent dans mes textes en fait. Il y a énormément de personnages à qui manquent des morceaux, des personnages amputés, oui, des personnages blessés. Alors, avec le temps, fini par trouver la correspondance intime, qui n'a absolument aucun intérêt, donc je ne vais pas en parler, mais dans ma biographie, parce que c'est vraiment une chose qui m'a échappé pendant longtemps, jusqu'à ce que je retrouve l'épisode, j'ai un peu matrice comme ça. Mais au-delà de ça, c'est que j'ai le sentiment, ça a à voir avec l'enfance, sans doute, et plus largement avec l'inachevé, et que je sens les êtres construits sur des bâtiments pas finis, quoi, sur des choses qu'on laisse, qu'on est contraint d'abandonner, et que en tout cas c'est quelque chose qui me constitue beaucoup, c'est le sentiment de d'être fait de choses pas terminées ou de choses amputées, de choses qu'on a été contraint de laisser en plan, quoi. Voilà l'écho que je peux donner à ce passage-là.
Je pense que c'est un écho qui passe très bien, si ce n'est dans l'enfance, mais je le crois, mais l'adolescence aussi, très fortement. Alors évidemment, on devrait interdire cette pièce au public adulte. Non, je plaisante. On devrait n'y envoyer que les enfants et les adolescents. Non, mais vous voyez pourquoi je dis ça. Parce que ça éviterait les manifs devant le théâtre, tout simplement. Oui. Voilà.
Ce serait joli, une manif d'enfants, spontanée.
Ah oui, mais les enfants ne vont pas faire le même type de manif. Mais bon, voilà, donc allez-y voir cette pièce avec ou sans enfants. Bien sûr, vous trouverez toutes les dates, hein, parce qu'après, il y aura des dates un peu plus lointaines. Il reviendra à Sartrouville, ou en tout cas dans le département, et on trouvera ça sur le site du théâtre de Sartrouville ou sur notre site. Nous renverrons vers la compagnie, etc., pour les dates. Je voudrais quand même, Fabrice Melchiot, vous êtes directeur, j'ai dit aussi, depuis 2 ans, de Armstrong Ram, qui est un théâtre enfance-jeunesse à Genève. Oui. Mais vous affirmez de l'intergénérationnel dans ce théâtre, et vous dites ceci dans votre éditorial: ici on rassemble, on interroge, on surprend, on bouscule, on émerveille. Et j'ai le sentiment que la légitimité pour faire ça, parce que c'est pas rien hein, de vouloir ça et d'essayer de le faire. C'est aussi tout le travail, je suis allée voir sur votre site, que vous faites d'accompagnement, d'ateliers d'écriture, d'ouverture du théâtre, mais pas simplement du théâtre les murs, mais du travail lui-même. Il y a une grande générosité, j'ai l'impression, dans votre manière de diriger ce lieu.
Oui, mais pour moi, c'était une responsabilité dès lors que j'affirmais, alors que c'est un théâtre qui a été fondé par Dominique Caton, metteur en scène, un théâtre qu'il a dirigé pendant 20 ans, et un théâtre considéré comme le théâtre jeune public, pas seulement à Genève, mais en Suisse romande. Et moi, le terme de jeune public est un terme qui m'a toujours embarrassé, d'abord en tant qu'auteur, parce que j'ai le sentiment que c'est davantage un terme de programmateur, au fond, et qu'il constitue l'enfant cible immédiatement. Effectivement, je lui préfère le label Enfance et Jeunesse, parce que c'est plutôt une manière de transmettre que ce sont ces espaces-temps-là qui nous intéressent, et que c'est peut-être ce qui fait le socle commun à toutes les propositions artistiques, c'est que l'enfance et ou la jeunesse constituent la fibre, l'essence même de ce qu'on propose au plateau, que ce soit du théâtre, de la danse, du cirque, de la musique. Alors, et puis c'est aussi une manière de reconnaître ce qu'est le public, ce que sont les publics de ce théâtre-là. C'est que, bien sûr qu'il y a des représentations scolaires où là, les classes sont invitées et les enfants sont entre eux, je dirais, mais il y a un volume de représentation tout public plus important. Donc c'était simplement de dire, tiens, il y a en fait énormément d'adultes, d'adolescents également, qui viennent dans ce théâtre-là. Donc ouvrons tout simplement le champ de l'adresse. Et dès lors qu'on est dans la définition d'un projet plus intergénérationnel, je crois que c'est très important d'affirmer par ailleurs que la pédagogie est aussi au centre du projet, pour pouvoir vraiment prétendre être un centre de création internationale pour l'enfance et la jeunesse, et par ailleurs une vraie maison pour les enfants.
Oui, d'ailleurs, vous dites toujours maison. Et partout dans les textes, on voit maison, maison et...
Oui, mais c'est parce que
c'est encourageant.
Les théâtres, les institutions culturelles qui sont vraiment des espaces qui privilégient la présence de l'enfant, du jeune homme, de la jeune fille dans ces espaces, elles se font rares en fait. Ça, on a tendance à considérer que désormais, c'est-à-dire le spectacle vivant pour l'enfance et la jeunesse a gagné du terrain, puisque les scènes nationales, les centres dramatiques proposent toujours une part de programmation pour les enfants et les jeunes. Cela dit, ça n'en fait pas des maisons pour les enfants. C'est-à-dire des lieux où ils se sentent d'abord chez eux. C'est ce qu'on essaye de faire à Amstramgram, c'est-à-dire de vraiment faire en sorte que les enfants, dès lors qu'ils passent la porte, se sentent dans un univers qui est vraiment le leur. Et j'aime beaucoup aussi que les adultes qui viennent là, qui ne sont pas forcément des parents, puissent reconnaître qu'ils viennent tout simplement parce que l'enfance, ils ont bien senti que c'était ce qui pour moi est devenu une évidence depuis longtemps. Et comme le disait Genet, c'est-à-dire que créer, c'est toujours parler de l'enfance. Ça s'est imposé à moi, c'est-à-dire que les premiers textes, je ne les ai pas du tout écrits, les premières pièces, il y a 20 ans de ça, je ne les ai pas écrites en me disant, tiens, je les écris en pensant à des enfants. C'est arrivé un peu accidentellement, et c'est à partir de cet accident, je me suis dit, tiens, pourquoi, en fait? En fait, parce que je ne peux pas envisager l'acte d'écriture séparément de cette considération de l'enfance comme lieu de départ et lieu d'arrivée, quoi.
Merci beaucoup, Fabrice Melchion. Merci beaucoup, Mathieu Cruciani. Et je renvoie au texte que l'on peut lire aussi. Le théâtre, ça se voit, ça s'entend, mais ça peut se lire. Donc, il est édité aux éditions de l'Arche. Et c'est vraiment une pièce qu'on a envie aussi de lire. Et merci d'ailleurs d'en avoir fait des lectures ici même à ce micro. Eh bien, c'est fini. On va quitter les chemins buissonniers aujourd'hui encore, mais on se retrouvera la semaine prochaine. Entre-temps, on peut réécouter ou télécharger cette émission sur le site de France Culture. Le temps buissonnier, c'est toute une équipe. Aline Payet, Brigitte Bouvier, Annie Comier et Jean-Guilain Meige à la technique. Vous continuez à cheminer sur les programmes de France Culture en compagnie de Marie Richeux. À la semaine prochaine.